Eh bien, bonjour, chères auditrices et auditeurs de Studio ZEF du Vent dans les Pages, donc la quatrième de cette année. Alors, avec Anne, bonjour Anne.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous encore
cette
fois-ci.
Mais c'est un plaisir.
Et puis, vous serez fidèle jusqu'à la fin de l'année, je crois bien.
Ah ben, j'espère bien, oui.
Alors, notre amie Catherine n'est pas là aujourd'hui, mais... C'est quand même François qui remplace Catherine. Voilà, aujourd'hui, pour nous parler de livres, évidemment. Tu es venu avec deux grands livres. Bonjour, François.
Bonjour, Véro.
Ça va ?
Oui, ouais, très bien.
Ouais.
Très
bon. Je sais que tu as couru pour venir ici, mais bon, on te fait confiance. En plus, c'est toi qui va commencer l'exercice.
Bon,
hein.
Bon,
allez,
bon.
C'est parti.
Je prends.
Tu vas commencer par nous parler d'un roman historique ?
D'un roman historique, oui. Ouais. Une grande fresque de la fin de la présence des morts en Espagne. Alors, il s'agit du livre de Ildefonso Falcones, Les révoltés de Cordoue.
Nous t'écoutons.
Chez Pocket.
Pour une poignée de... Pas de dollars, mais...
presque.
D'euros.
Voilà. Alors, ce livre, en fait, on a un héros qu'on va suivre tout le long du livre, qui est Hermando Ruiz, qu'on va nommer... dans tout le livre, le Nazaréen. En fait, ce pauvre garçon, il est né du viol d'une musulmane par un curé. Et il est élevé toute sa jeunesse par les curés. Donc, il possède parfaitement la religion catholique. Et en même temps, il est initié par un imam et il possède parfaitement toute la religion musulmane. De là, part toute une saga où lui est... pourchassé en premier lieu par son beau-père. Et puis, il va participer au début aux révoltes. Il n'a jamais su très bien de quel côté se fixer. Sa mère étant musulmane, il commence ses révoltes avec les musulmans. Il n'est pas très acharné. Et à un moment, il sauve une petite fille catholique qui était promise à la mort, un peu pour sauver sa peau à lui en même temps. Ce n'était pas un acte de charité, forcément. Mais bon, il se trouve qu'il le fait. Quand les musulmans l'apprennent, forcément, il redevient le Nazaréen, puisque c'est un acte qui n'est pas permis.
Ouais. En fait, il est le musulman chez les catholiques et le catholique,
et le catholique chez les musulmans. Donc ça, c'est sa jeunesse. Petit à petit, il a une autre participation à une révolte où, encore une fois, malgré lui, il sauve un noble parce que, comme il pratiquait un peu la médecine vétérinaire pour soigner ses mules, et bon, il a recousu la peau d'un noble espagnol, qui après va le protéger. Donc tout ça, ça l'amène à avoir une protection chez les catholiques et une protection chez les musulmans. Et il va mener un double jeu, c'est-à-dire qu'il va copier des Corans pour les distribuer. Il va être beaucoup dans les églises avec des musulmans qui sont en fait des prêtres dans l'église catholique. Des prêtres sous-marins, je dirais. Donc ils sont prêtres, mais ils sont musulmans avant tout.
D'accord.
Et ils diffusent, ça leur sert de protection pour pouvoir diffuser leur foi, les Corans et ainsi de suite. Donc apparemment, c'est quelque chose qui se pratiquait quand même pas mal à l'époque. Bon, chacun essayait de se protéger comme il pouvait. Donc il propage la foi musulmane en copiant des Corans, en les distribuant, et voilà. Jusqu'au moment où ça va moins bien se passer.
Mmh. Ouais. On attendait là.
Il arrive un moment, effectivement.
Ouais, pour garder son anonymat, évidemment, vis-à-vis de la société musulmane, il n'est pas connu. À part par les prêtres, mais il n'est pas connu comme étant un musulman pratiquant. Donc il s'attire des haines puissantes. Et après, on finit par comprendre plus ou moins qu'il jouait double jeu. Et là, il s'attire la haine des catholiques.
Et oui, c'est l'envers de bâton, ça.
Voilà, ça devient très compliqué. Donc il finit par être, après moult péripéties, hein, le livre fait plus de 1000 pages, donc je ne vais pas vous le résumer, c'est pas possible.
Bien sûr.
Il finit par, par essayer de rentrer, de passer en Afrique du Nord. Mais à cette époque-là, ce n'était pas si évident que ça, parce que le passage se faisait avec surtout avec les pirates qui venaient piller la côte espagnole et qui repartaient aussitôt. Donc il fallait à la fois arriver à prendre rendez-vous, à trouver une filière pour y aller. Et en plus, passer une fois qu'on avait réussi à faire ça, ce n'est pas parce qu'on était en Afrique du Nord qu'on était le bienvenu, même pour les vrais musulmans. C'est-à-dire qu'il y avait, d'une part, il y avait une peur du faux musulman, du catholique déguisé en musulman. Tous les musulmans qui arrivaient en Afrique du Nord étaient suspectés et malvenus. Mmh. Beaucoup finissaient comme esclaves, quand ce n'était pas bien pire que ça.
Donc ça nous apprend tout un tas de choses sur les mœurs et coutumes, les us et coutumes de cette époque-là, du côté catholique comme du côté musulman.
Voilà, en Espagne.
Et des interactions en Espagne.
Voilà. En Espagne.
Ah ouais, très bien. Et pour le situer, c'est l'époque d'Isabelle la catholique,
c'est... Oui, c'est ça.
D'accord.
Oui, c'est ouais. 1500, ça commence en 1568, d'accord. 1568, et puis c'est toute l'époque...
On passe au livre de Anne. Je reviens vers toi tout à l'heure pour deuxième, pour ton deuxième choix.
Très bien.
Hein, ouais, merci François. Bon, Anne, alors vous allez nous parler d'abord du polar ou
Non, je vais parler d'abord du prix des rendez-vous de l'histoire. Ah. Alors, il s'agit de l'histoire du lion personne par Stéphane Deguy. Alors, c'est l'histoire d'un lion qui a fait confiance aux humains et qui l'a payé d'une vie très triste derrière une cage, évidemment. Alors, nous sommes au Sénégal en 1786. Un petit garçon repéré pour son intelligence est envoyé par son instituteur à la ville pour faire de meilleures études. Sur la route, il est à pied, bien entendu, avec son baluchon, son outre de peau de chèvre à la main. Il rencontre un bébé lion qui gémit sur la piste et qui, visiblement, a été abandonné par sa mère. Soit elle est morte, soit... Bon. Donc, il recueille le bébé, il lui donne la gourde de peau de chèvre. Alors ça, c'est fini. À la vie, à la mort, tous les deux. Ils arrivent à Saint-Louis du Sénégal. Et là, le jeune homme se fait engager par le gouverneur... c'est pas le gouverneur du Sénégal, mais c'est le consul. Qui s'appelle Monsieur Pelletan, et qui est un homme tout à fait étonnant dans son époque, puisqu'il est anti-esclavagiste. C'est un doux rêveur qui s'imagine que tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil, et qui retombe quelquefois... Bon. Alors donc, Monsieur Pelletan les héberge. Le lion vit libre dans la maison. Naturellement, le gamin est devenu un secrétaire, etc. Mais, épidémie de variole, il meurt. Et le lion se retrouve tout seul, sans soutien, à part ce monsieur Pelletan charmant qui l'héberge la nuit sur son tapis. Enfin bon, les domestiques en ont une peur folle parce qu'entre-temps, le bébé lion est devenu un magnifique lion avec une superbe crinière. Quand il rugit, ça s'entend. Et le seul ami de ce lion, c'est un petit chiot qui s'appelle Hercule. Et qui est tout le temps fourré avec lui, qui le console quand il pleure après Yacine, parce qu'il pense toujours à Yacine. Bon. Bref, M. Pelletan est obligé d'envoyer le lion à Paris pour le mettre à la ménagerie du roi. Alors, il l'envoie par bateau, et c'est là que se termine la vie agréable de ce pauvre lion. Il ne le sait pas. Alors, je ne vous ai pas dit que ce lion a été baptisé par le jeune Yacine, Kena, dans son dialecte. Kena, ça veut dire personne. Et pourquoi l'a-t-il appelé comme ça? Tout simplement parce que ce jeune Yacine a été nourri de littérature grecque par le père qui lui servait d'instituteur, et il s'est souvenu des voyages d'Ulysse. Et donc, voilà, il l'a appelé personne. Donc, ce lion s'appelle personne. Alors, le voyage pour venir en France est absolument épouvantable, à fond de cale. Ils arrivent au Havre, ils sont tous les deux, le lion et le chien, dans un état pitoyable. Et ils sont accueillis par un naturaliste qui est envoyé par la ménagerie du roi, qui s'appelle Jean Dubois. Alors, ce naturaliste va les convoyer jusqu'à Paris. Et bon, 3-4 années se passent, la Révolution passe. La ménagerie est abandonnée. Pour pouvoir nourrir ses bêtes, Dubois met des pièges dans le parc de Versailles. Et en fait, on les amène au Jardin des Plantes et là, ils vivront derrière une cage jusqu'en 1796 où meurt le lion. Alors, ce roman qui commence comme un conte... Oui. Montre avec beaucoup de profondeur au fur et à mesure toute la cruauté et le racisme dans les deux sens, anti-noir, anti-blanc, dont sont capables les hommes, ainsi que la capacité de souffrance que peuvent infliger la bêtise, l'appât du gain et l'indifférence. Je voudrais vous lire deux petits passages de ce livre que j'ai trouvé vraiment intéressant. Dans le premier, nous sommes en Afrique. Pelletan fait la tournée de tous les villages qui dépendent de son consulat, et il arrive dans le village de Yacine. Voilà. Pelletan était donc passé au début de sa tournée par le village de Yacine, qui se situait à mi-chemin entre Podor et Saint-Louis. Le prêtre Jean lui avait fait les honneurs de sa mission et l'avait présenté aux anciens. Mais Jean-Gabriel Pelletan avait décidé de faire affaire, mais il avait scandalisé son propre entourage et une grande partie de son auditoire en déclarant tout net aux anciens qu'il n'achèterait qu'à des hommes libres. Il ne voulait pas que sa gomme arabique soit récoltée par des esclaves et souillée de leur sang. Plusieurs anciens avaient baissé la tête furieux et avaient craché sur le sol. Ils avaient accoutumé de compter leur puissance en tête de bétail et en nombre d'esclaves. Indifférent à leur colère et peut-être ne l'ayant qu'à peine perçu, Pelletan poursuivit en précisant qu'il n'exigeait pas l'émancipation ou la vente des esclaves de case, car il souhaitait respecter les usages. Mais il interdisait qu'on en produisît de nouveau. La compagnie nouvelle, telle que lui, Pelletan, la représentait, tirerait sa richesse du morphile, parce que les éléphants étaient légion, mais la gomme arabique, ce serait des hommes libres. Alors naturellement, ça ne se passe pas bien. Pelletan repartit, les anciens redoublèrent de rigueur envers leurs esclaves, et même en acquirent de nouveau, horrifiés par cette loi inique qui leur coûterait bien cher. Ça, c'est le premier passage. Le second, nous sommes entre Saint-Louis du Sénégal et Paris, sur un bateau. Le Centaure, c'est le nom du bateau, avait à peine déployé sa pleine voilure que son capitaine, qui aimait ses aises, commanda qu'on descende dans la cale du lion et de son roquet toutes sortes de tonneaux, de cages à volailles et de viande salée. Puis on referma la trappe au-dessus d'eux. Bientôt, le roulis, la chaleur, les relents de vin aigre, de saumure et de fiente rendirent le lion malade. Il vomit. Le cuisinier avait chargé l'un de ses marmitons, un sélanais taciturne, de s'occuper du lion. Quand le petit homme découvrit les vomissures, le premier soir, de sa cravache, il frappa personne à coups redoublés, tout en lui adressant dans sa langue de véhémentes injures. De toute la traversée, il ne prit jamais la peine de le faire monter une seule fois sur le pont. Chaque jour, il jetait de la sueur sur les déjections de la bête et c'était là tout son ménage. Rapidement, d'innombrables vermines couvrirent le sol de la cale. Certaines entraient dans la truffe du lion qui éternuait dans son sommeil. Il y avait déjà 6 jours que personne ne se morfondait. Quand il sentit une petite langue grappeuse lui frotter familièrement la joue, c'était Hercule qui l'avait retrouvé dans le labyrinthe du ventre du vaisseau. Je trouve que ces deux passages montrent bien d'un côté la méchanceté humaine envers d'autres humains et la méchanceté humaine envers des bêtes qui ne peuvent pas se défendre, quoi. Même un lion avec sa...
Mais est-ce qu'on peut dire, dans l'ensemble de ce roman, est-ce qu'on peut dire que le lion finalement est un personnage prétexte
Tout à fait.
C'est le personnage,
c'est à la fois le personnage central voilà. Et le fil rouge,
voilà,
pour montrer la condition, toute la cruauté,
la condition humaine, quoi.
Alors, ouais. Ce roman décrit également, heureusement, des personnages bienveillants, généreux et ouverts. Le père Jean, qui est fou de littérature grecque, qui enseigne la littérature aux petits noirs. Pelletan, le consul anti-esclavagiste. Et Dubois, le naturaliste, dont la générosité et l'amour des animaux sauvent Hercule et personne de la mort. On traverse la Révolution, effrayante d'indifférence et de violence, mais on y rencontre aussi des personnages attachants comme Bernardin de Saint-Pierre et Geoffroy Saint-Hilaire, qui créent le jardin zoologique. Ce roman original, qui accroche le lecteur par son thème et par son écriture claire et rythmée, a reçu le prix du roman historique au Rendez-vous de l'Histoire 2017. Voilà, il s'agit de l'Histoire du lion personne de Stéphane Audeguy aux éditions du Seuil 2017.
Merci beaucoup, Anne. Je vous ferai répéter à la fin.
Pas de problème.
François, je me retourne vers toi. Donc pour le deuxième choix, c'est un livre récent.
C'est un livre récent. En fait, c'est le prix Goncourt 2016. C'est un hasard, mais voilà.
Donc c'est Boussole.
Boussole de Mathias Sénard. Voilà. Alors, C'est un livre que moi je trouve passionnant parce que c'est les rapports de l'Occident avec l'Orient, plutôt la Turquie, l'Iran, beaucoup l'Iran, à travers un personnage, Franz Ritter, qui est musicologue, qui se rend dans ce pays, dans ces pays, et qui rencontre tous les archéologues, tous les gens, les sociologues, tous les gens qui étudient ce pays. Il les rencontre sur place. Et là, le livre, en fait, c'est un livre qui se situe à l'époque actuelle, et c'est un livre pour lui où il n'évoque que des souvenirs. Les souvenirs de ses rencontres et de ses échanges avec tous ces gens-là. Et ce qui est très intéressant, c'est que ce livre est d'une érudition fantastique. On découvre absolument depuis le 19e siècle, même avant, mais avant c'est un petit peu limité. Au 19e siècle, il y a eu beaucoup d'échanges. Et tout le 20e siècle, on découvre toute la puissance de l'intérêt qu'avait l'Orient pour les Occidentaux, à la fois en musique, en littérature, en peinture, il y a toutes les découvertes archéologiques, l'histoire et ainsi de suite. Ça, c'est le côté direct. Mais aussi, il parle de toute l'influence que ça a eu sur les grands musiciens, sur les écrivains, sur les peintres.
Tout le côté artistique.
Artistique. Ouais. Et aussi... L'apport des Orientaux dans la littérature française, parce qu'il y a eu aussi des gens. Un des premiers qui a été connu ici, c'est Sadegh Hedaya, qui a écrit La Chouette, qui a été publié chez Corti dans les années 60. Et bon, c'est vraiment un voyage passionnant à travers tout l'Orient.
Tout à fait. Ce qui est quand même étonnant, c'est que on se rende compte à quel point ces pays se tournent vers nous et sont intéressés par nous. Et nous, par contre, nous les considérons encore comme des endroits arriérés, peu intéressants, peu intéressés, etc. Je reviens toujours sur ce tremblement de terre qu'il y a eu récemment. 428 morts en Iran, personne n'en parle. On a eu juste une petite
quelques
information,
médias, oui,
une petite information,
deux jours, trois jours peut-être.
Et on n'a pas vu de grande mobilisation pour envoyer des pompiers, des chiens.
Pas vraiment. Non. Voilà. Non, mais c'est toujours la même histoire.
C'est impressionnant.
C'est clair. Oui, tout à fait. Ouais. Voilà. C'est bien de le rappeler, effectivement.
Donc ce livre est quand même sous-tendu par une histoire d'amour, parce qu'il faut quand même...
C'est un roman.
C'est un roman, c'est pas
ça
seulement...
Ça m'étonne pas de toi, François. C'est ton petit côté fleur bleue, là.
Mon petit côté fleur bleue, mais bon, des amours un peu plus rêvés qu'effectifs.
Oui, alors si tout se passe dans la tête, là, ça va pas du tout.
ça va avec la teneur poétique
La rêverie orientale.
Voilà, avec la rêverie orientale, exactement. Merci beaucoup, François. Je me retourne vers vous, Anne, pour deuxième choix.
Alors, moi, j'ai essayé de vous faire plaisir, ma chère.
C'est très gentil.
Un polar. On m'a demandé un polar.
Oui, alors, proposition. Hein.
Voilà. Mais comme j'ai des idées assez étroites, c'est un polar qui se passe au 18e siècle.
Oui, mais quand même, c'est un polar quand même.
Voilà. Ouais. Alors, il s'agit d'un nouvel auteur de roman qui s'appelle Olivier Barre de Capuçon et qui a écrit son premier polar s'appelle Casanova et la femme sans visage. Alors, c'est une enquête criminelle d'un tout nouveau genre. C'est un couple d'enquêteurs qui est composé d'un jeune commissaire taciturne qui s'appelle Volney, chevalier de Volney, et qui a un aide qui est un moine, paillard, savant, savantissime même, toujours au milieu de ses cornues, qui lui sert de médecin légiste. Alors nous sommes en 1759, une jeune femme est attaquée une nuit en rentrant chez elle, et elle est défigurée horriblement. On lui a arraché la peau du visage. Et qui la découvre, c'est Casanova rentrant d'un tripot. Naturellement, quand Volney arrive sur les lieux, il découvre, en retournant le corps, un pli cacheté du sceau royal. Donc il cache le pli et Casanova a vu qu'il avait caché un pli. Le lendemain, une charmante jeune femme qui s'appelle Chiara, qui est une petite marquise italienne de haute naissance, envoyée par Madame de Pompadour, vient voir Volney pour le séduire et obtenir de lui la fameuse lettre dont elle est persuadée qu'il l'a cachée. Tous les ingrédients d'une enquête haletante sont là, un cadavre défiguré, une mystérieuse marquise, un Casanova libertin et insolent, le sceau royal sur un pli caché, les autres vont chercher dans une atmosphère très glauque. Nos enquêteurs, en avance sur leur époque, utilisent déjà des outils préfigurant la police scientifique. Volney, parce qu'il analyse les faits très froidement, et le moine, parce qu'il fait des analyses légistes avec ses cornues qui n'ont rien à voir avec ce qu'on trouve à l'époque. En révolte contre la société, détestant la cour qu'il considère comme le creuset de tous les maux du royaume, Volney est un être épris de justice, d'une froide honnêteté. L'enquête nous fait arpenter un Paris sale et miséreux, bondé et criard la journée, dangereux la nuit avec ses ruelles coupe-gorge. On découvre les petites maisons du parc aux cerfs qui sont fréquentées par le roi et on suit les sombres intrigues de la cour de Versailles, mêlant le parti des veaux, la franc-maçonnerie et la froide confrérie du serpent. Les personnages sont bien campés, l'écriture est riche de détails ciselés, l'atmosphère de l'époque bien rendue, et on suit avec intérêt les multiples rebondissements. Ce nouveau couple intelligent d'enquêteurs au caractère bien trempé annonce d'autres enquêtes tout aussi remarquables. Voilà, cet ouvrage a reçu le prix Sang d'encre du roman policier 2012.
Oui, c'est vrai que c'est, pour la petite parenthèse, c'est un festival très intéressant, le festival Sang d'encre qui
tout
existe depuis 1995.
Voilà, alors moi j'avais déjà appris qu'il y avait des prix remis, mais je n'avais jamais lu de livre ayant eu le prix.
Ouais.
Et je trouve qu'il le vaut, c'est très enlevé, ça a un petit côté Jean-François Parot.
Oui.
Jean-François Parot nous donne un personnage qui fait l'enquête, qui est sympathique, qui est gay, qui chante, qui aime l'opéra. Volney, il n'aime rien de tout ça.
Ah oui.
C'est un homme qui est brisé par quelque chose qui lui est arrivé dans son enfance et il est d'une rectitude et d'une droiture réfrigérante.
Ah oui. Et donc, vous êtes essayé au roman policier, mais vous en lisez peu d'habitude ou voire pas du tout?
Non, j'aime bien les romans policiers, mais pas tellement les contemporains. Je lis plutôt des romans policiers historiques. J'aime bien ce qui se passe au Moyen-Âge,
d'accord,
etc. Enfin voilà, je suis très contente d'avoir lu celui-là. Ça m'a apporté tout ce que j'attendais.
Et ben, pendant que vous avez la parole, redites-nous vos choix littéraires de ce mois-ci, parce que l'émission se termine.
D'accord.
Donc, je veux bien que vous...
Alors, le premier volume s'appelle « Histoire du lion personne » par Stéphane Audeguy. Et il est aux éditions du Seuil. Et ça date de 2017. Le policier s'appelle « Casanova et la femme sans visage » par Olivier Barde Cabusson. C'est le premier d'une longue série. C'est à Babel Noir. Et il y en a 5 déjà qui sont sortis à la suite. Le suivant s'appelle Messe Noire et il se passe quelque part chez les sorciers sur les tombes.
Mmh. Vous l'avez lu?
Oui, bien sûr.
Bon, une prochaine fois. Là, ça y est, vous avez lancé le suspense, là. François, est-ce que tu peux nous rappeler les titres de tes
Mais
choix?
Bien sûr, sûr. Alors, le premier livre, c'est « Les révoltés de Cordoue » par Ildefonso Falcones. C'est un auteur catalan.
Donc très bien, c'est d'actualité.
Traduction. Moi, je l'ai en version pocket. La version d'origine, je ne sais pas.
Rappelons qu'il faut avoir le temps, c'est un gros livre.
C'est un très gros livre, il fait plus de 1000 pages, 1100 ou quelque chose comme ça, 1100 pages. Mais bon,
ça se lit bien.
C'est passionnant, ça
Exactement.
Se lit bien. Et le deuxième, c'est le livre de Mathias Sénard, Boussole. Moi, il est chez Babel.
Oui.
Alors, c'est pareil, je ne sais pas chez qui il est paru en premier lieu.
Pour l'instant, oui, effectivement, moi aussi, je l'ai vu que chez Babel.
Ça, c'est un livre qui est moins épais, Mais on met autant de temps à le lire. On le déguste.
Il est dense.
On le déguste, celui-là.
Super, merci beaucoup. Et puis, j'espère qu'on se revoit bientôt, François.
Hein. À bientôt, bien sûr.
Je te réinvite.
Volontiers.
Tu reviens quand tu veux. Anne, à très bientôt. Et merci encore pour vos choix délicieux, encore une fois.
Mais la prochaine fois, ce sera Romain Gary qui sera à l'honneur.
Formidable.
Une biographie par Dominique Bonnat. Et puis, des textes de La promesse de l'aube.
Superbe. Magnifique.
Ça vous convient ?
Ça aussi. Ah oui, alors ça.
En ce moment, ils en parlent tous les jours sur France Culture. Donc,
tout à fait. c'est vrai. C'est assez d'actualité.
Et je crois qu'il va paraître en Pléiade.
Mais il mérite.
Mais mérité.
Oui,
c'est superbe, gars.
Magnifique. Eh bien, merci encore une fois. Et merci au Café Fluxus. Vous avez entendu un petit fond sonore qui, j'espère, vous a plu. Je vous réinvite le mois prochain pour une nouvelle émission du Vent dans les Pages. Merci beaucoup. À très bientôt. Salut.